7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 18 mai. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, festival de Cannes à la tonalité politique, le président ukrainien invité en vidéo de la cérémonie d'ouverture hier soir, alors que Kiev juge aujourd'hui un premier soldat russe accusé de crimes de guerre. On voit cela en détail, Anaïs, après les autres titres.
Horizon 12 juin, premier tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon en campagne pour soutenir la NUP, nous serons à Nantes. Table ronde transparence dans les EHPAD Orpea, France Inter y a assisté en exclusivité à Troyes. Et puis le livre de la jungle au théâtre à Paris, un ballet pour s'interroger sur la crise climatique.
Et nos invités ce matin, Léa, à 7h50.
Un spécialiste des relations internationales, mais surtout un esprit libre que nos auditeurs connaissent bien. Dans son nouveau livre, Un autre monde, l'ère des dictateurs chez Perrin, il explique pourquoi nos démocraties libérales sont chaque jour un peu plus menacées par les autocrates de tous bords. On reçoit Alain Frachon à 7h50.
The Voice, comme on le surnomme. On se retrouvera, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec l'ancienne candidate RN à la présidentielle, députée du Pas-de-Calais, candidate à sa réélection, Marine Le Pen. À notre micro avec vos questions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter. Du tapis rouge et des paillettes de Cannes au treillis militaire des tranchées de la guerre. Apparition surprise de Volodymyr Zelensky hier soir à l'ouverture du Festival du cinéma sur l'écran géant du Palais des Festivals. Cannes, qui a banni les délégations officielles russes après l'invasion de l'Ukraine, a donné d'emblée une tonalité politique à sa 75e édition. Cannes, fondée en 1939 pour s'opposer à la Mostra de l'Italie fasciste. Delphine Evenou.
Le Festival de Cannes a une longue histoire politique. Alors pas question de manquer son rendez-vous avec le monde, sobriété et gravité. Virginie Efira, présidente de cérémonie, interroge en ouverture le pouvoir du cinéma.
Le cinéma ne change peut-être pas le monde, mais s'il pouvait seulement lui servir d'exemple.
Vincent Lindon, président du jury, lui répond en écho.
Pouvons-nous faire autre chose qu'utiliser le cinéma, cette arme d'émotion massive, pour réveiller les consciences et bousculer les indifférences ? Je ne l'imagine pas.
Le grand théâtre Lumière et son écran géant deviennent alors une tribune mondiale.
Parce qu'il y a des réalités qui écrasent tout et qui s'imposent à nous. Parce qu'il y a des voix que nous nous devons d'écouter. Mesdames et messieurs, avec nous, en direct de Kiev, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
Polo militaire paré de l'écusson bleu et jaune, le chef d'État convoque Charlie Chaplin et son célèbre dictateur en 1940.
Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que de nos jours, aujourd'hui, le cinéma n'est pas muet. Nous devons gagner dans cette victoire et nous avons besoin de cinéma que chaque voix soit du côté de la liberté. Gloire à l'Ukraine.
Le cinéma peut-il influer sur la marche du monde ? Le festival est ouvert aux cinéastes de marquer les esprits et leur époque.
Cannes, on y revient dans le journal du festival à 7h23. Volodymyr Zelensky, lui, s'est entretenu avec son homologue français hier pour évoquer l'évacuation des soldats ukrainiens du complexe d'Azovstal de Mariupol. Combien y sont-ils encore retranchés ? Les 300 sortis hier seront échangés contre des prisonniers russes. Alors qu'un soldat russe, justement, va devenir aujourd'hui la première personne jugée pour crime de guerre. Son procès s'ouvre en début d'après-midi à Kiev. Il a reconnu avoir tué un homme non armé fin février sur place Valérie Krova.
Sur une vidéo mise en ligne par les services de sécurité ukrainiens, il apparaît le crâne rasé dans un survêtement gris. Il n'a que 21 ans. Ce soldat, originaire de Sibérie, explique qu'il a reçu l'ordre de tirer sur un villageois de 62 ans qui circulait à vélo. Avec 4 autres militaires de son unité, dont le convoi avait été attaqué dans la région de Soumy, au nord-est de l'Ukraine, il venait de voler une voiture. Je lui ai tiré dessus, il est tombé et nous avons continué notre route, confesse-t-il. La victime, qui n'était pas armée, est morte sur le coup. Selon la procureure générale de Kiev, c'est l'un des militaires de son unité qui lui aurait intimé l'ordre de tuer le civil afin qu'il ne les dénonce pas. Cet après-midi, l'accusé comparaîtra seul devant une cour de justice ordinaire de Kiev. Il sera accompagné d'un avocat nommé par l'État ukrainien. Le jeune soldat russe risque la prison à vie s'il est reconnu coupable de crimes de guerre.
Valérie Krova, envoyée spéciale à Kiev avec Laurent Macchietti. On attend par ailleurs aujourd'hui le plan de la Commission européenne pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles russes, en commençant par consommer moins. Alors qu'en Italie, l'entreprise Eni se plie aux exigences de Moscou pour continuer à recevoir du gaz. Elle va ouvrir deux comptes, un en euros, l'autre en roubles auprès de Gazprom Bank. La Pologne et la Bulgarie qui ont refusé de payer le gaz russe en roubles en sont privés. La Finlande craint à son tour des coupures. La Finlande et la Suède qui déposent tout à l'heure à 8h leur demande d'adhésion formelle à l'OTAN.
Il est 7h05, il n'est pas candidat aux législatives, Anaïs, mais il laboure le terrain.
Jean-Luc Mélenchon sur les quatre chemins pour défendre la nouvelle Union populaire écologiste et socialiste. L'autoproclamé chef de l'opposition de gauche entend se démultiplier ces prochaines semaines. Première étape à Nantes et Saint-Nazaire, suivie hier par Laurence Perron.
Et vous allez tout casser les branches.
À la sortie de la gare de Nantes, les journalistes se battent pour approcher l'insoumis en chef. Jean-Luc Mélenchon réclame qu'on lui fiche la paix pour répondre à des ados.
Et le mieux placé, c'est moi. Donc c'est pour ça qu'ils vont me choisir.
Sa campagne de Premier ministre, il l'entreprend en amabilité pour celle qu'il désigne désormais comme ma prédécesseur Elisabeth Borne.
Une catéchumène du néolibéralisme, vous devez travailler davantage. Quelqu'un qui est une sorte de caricature ambulante. On l'a connu à la SNCF où il l'appelait Madame.
À une heure de route, Saint-Nazaire, un apéro-meeting dans un quartier populaire.
Il est temps, en effet, qu'il y ait des femmes à tous les postes de direction. Mais que ça ne serve pas de prétexte pour pas se rendre compte qu'elle n'est pas là parce qu'elle est une femme, mais elle est là parce que c'est une machine à affrontement social.
Quelques 600 personnes, des jeunes, des vieux, des communistes, des écologistes, des insoumis ou des socialistes, pour qui la stratégie d'un Premier ministre qui évite la case élection n'est pas un sujet.
Moi, j'étais militant socialiste avant, pendant longtemps, et j'ai jamais vu une ferveur aussi forte. Alors certes, on peut penser de la personnalité, tout ça, mais en venant, j'ai compris la stratégie en fait de la gauche, qui est de repolitiser les masses.
Faites mieux, faites plus, harangue l'insoumis, qui n'hésite plus aujourd'hui à affirmer que cette élection est un référendum anti-Macron.
Elle aussi ira sur le terrain à la fin de la semaine, la nouvelle première ministre Elisabeth Borne dans le Calvados. Et puis à la page People de ces législatives, le rugbyman du 15 de France et du Stade Toulousain, Maxime Médard, sera suppléant de la candidate LR, Laurence Arribagé en Haute-Garonne. Suppléante aussi Marion Maréchal du candidat zémourien Stanislas Rigaud dans le Vaucluse. Elle a 8 ans et va devoir suivre un traitement jusqu'à ses 18 ans avec pose de prothèse dentaire. La mère de la fillette blessée lors d'une intervention policière à Saint-Denis a porté plainte pour violences volontaires aggravées. La fillette fêtait la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations quand la police municipale de Saint-Denis a brutalement chargé sans sommation, dénonce l'avocate. La fillette a été violemment projetée au sol dans la bousculade. Renouer les fils du dialogue après le scandale. Depuis vendredi, Orpea organise des tables rondes partout en France avec direction, famille et résidents des EHPAD pour faire un état des lieux, avancer vers des améliorations, mais surtout peut-être pour rassurer le grand public après les soupçons de maltraitance institutionnelle. Louis Fontaine, vous avez pu exceptionnellement assister à l'une de ces premières tables rondes à Troyes, dans l'Aube, à la maison de retraite Orpea l'Europe.
La table ronde commence par une opération transparence avec la projection d'un film de 20 minutes où l'on entend des résidents se plaindre de leurs conditions. Le directeur Romain Oberlander, en poste depuis 3 ans, prend ensuite la parole devant une trentaine de personnes. Sonia se lance et dénonce ce que vit sa mère dans un EHPAD Orpea d'une ville voisine.
Lorsque vous avez une aide-soignante qui est interpellée par une petite mamie qui a besoin d'aller aux toilettes et qu'elle lui dit « j'ai pas le temps, tu n'as qu'à pisser dans ta couche », je trouve que pour le prix que l'on paye, on peut demander l'excellence.
Devant ces témoignages, le directeur de l'établissement acquiesce et reconnaît certaines négligences. Mais le mea culpa reste mesuré. L'État a selon lui sa part de responsabilité.
Les gens ont attaqué Orpea parce que derrière, il y a une logique d'actionnaire. On peut en parler, on peut dire on est contre, on est pour, ok. Mais derrière, le manque de soignants, c'est pas Orpea, le manque de soignants, c'est national. Il n'y a pas vraiment un élan, mais un élan de la collectivité, un élan des mairies, un élan national derrière.
Malgré tout, les familles ressortent satisfaites de ce temps d'échange. Marilène et Marie-Ange ont pu pour la première fois dire ce qu'elles avaient sur le cœur.
Très important, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui continueront à changer, et en mieux, je pense.
Et ces réunions comme aujourd'hui, où on se rencontre entre plusieurs établissements, sont encore beaucoup plus constructives.
À la fin, les participants ont écrit sur un tableau leurs propositions. À voir ce que la direction en fera.
Reportage Louis Fontaine pour France Inter. Des pics de chaleur à Valence et à Montélimar et des records dans la vallée du Rhône. Épisode de chaleur exceptionnel à la fois par sa précocité, son étendue et sa durée dans le temps.
Il est 7h10. La tuerie raciste de Buffalo est due terrorisme.
Les mots sans détour de Joe Biden hier sur place où un jeune blanc de 18 ans a fait 300 kilomètres pour venir tuer 10 personnes noires. Le suprémacisme blanc est un poison qui tue, je condamne ceux qui le répandent, dit le président américain. Sébastien Paour, vous avez recueilli les réactions des habitants du quartier.
C'était bien que Joe Biden vienne, il a montré que c'était important. Mais pour William, 67 ans, né à Buffalo, il faut surtout interdire les fusils d'assaut. Parce que personne n'en a besoin, dit-il. Pour chasser quoi, à part des êtres humains ? Tom, le garagiste du quartier depuis 32 ans, est du même avis. Interdire toutes les armes de guerre, c'est ça la solution, d'après lui. Et garder un œil sur les médias d'extrême droite que Biden n'a pas nommé hier, comme Fox News, qui distille une rhétorique de la haine et de la division dont on voit désormais le prix à payer. Quant à Michel, revenu à Buffalo, sa ville de cœur, après 10 ans à Boston, elle ne veut pas entendre parler du deuxième amendement qui garantit le droit de posséder une arme. Elle dit qu'il devrait être moins important que le droit à vivre et que tous les Américains devraient pouvoir se dire que leurs enfants sont en sécurité à l'école quand ils les déposent le matin. Buffalo, Sébastien Paour, France Inter.
Pire que le VIH, la malaria ou l'alcool, c'est la pollution. 9 millions de morts prématurées dans le monde tous les ans. Plus de morts dues à la pollution en un an que de morts du Covid en 2 ans. Étude publiée ce matin dans le Lancet. Le livre de la jungle, un classique de la littérature, une nouvelle fois revisité, cette fois en ballet, à voir en ce moment au Théâtre du Châtelet à Paris, une pièce du chorégraphe britannique Akram Khan. Cyril Ardo, bien loin du sympathique Disney, on est là dans une version bien plus sombre.
De l'histoire originale, Akram Khan n'a gardé que les grandes lignes. Le récit se déroule à présent dans une ville abandonnée par les humains suite au réchauffement de la planète. Les personnages emblématiques sont là. Bagheera la panthère, l'ours Balou, le serpent Ka et bien sûr Mowgli, désormais une petite fille, réfugiée climatique, Akram Khan.
I've always been fond of Jungle Book.
J'ai toujours été fan du livre de la jungle, mais par la suite j'ai découvert que Rudyard Kipling était raciste, misogyne. Ma mère est une grande féministe, elle m'a raconté les histoires du point de vue des femmes. Celui de Marie de Magdala, pas celui de Jésus-Christ, celui d'Ève, pas d'Adam. Depuis, ce qui me passionne, c'est d'explorer le point de vue de ceux qu'on a décidé de faire taire.
Le décor n'est réduit qu'à quelques boîtes en carton et accessoires. Le reste est réalisé à partir de projections d'images virtuelles. C'est très réussi. C'était une demande de la fille d'Akram Khan, 9 ans.
Elle m'a dit « Papa, ne fais pas de grand décor ». Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a questionné sur comment on le déplaçait. Je lui ai expliqué que c'était avec des avions et des bateaux. Elle m'a répondu « Le réchauffement climatique ».
Les 10 danseurs livrent une performance très juste, émouvante. La musique de Jocelyne Pouk sublime le tout. Les dialogues, en revanche, sont en anglais avec quelques sous-titres. Les plus jeunes auront donc peut-être un peu de mal à suivre le spectacle.
Le livre de la jungle réimaginé jusqu'au 26 mai à Paris, surtout pour les adultes, conseillés à partir de 10 ans au moins.
Merci Anaïs Feugat. Le zoom dans 3 minutes. Comment cultiver un arbre fruitier avec moins d'eau ?